les jardinières.
Bonjour à tous et bienvenue dans les jardinières. Ce matin et comme tous les samedis, on se lève avant le soleil pour répondre à toutes vos questions concernant nos amis les plantes. Et aujourd'hui, pour une nouvelle session jardinage, eh bien c'est Sophie que je retrouve à nouveau. Bonjour Sophie.
Bonjour Stéphanie, bonjour à vous tous, auditeurs matinaux. Nous sommes là pour passer une heure avec vous. Et comme nous n'avons pas tout le savoir jardinier pour vous renseigner, nous sommes aujourd'hui avec Philippe Détra, horticulteur à Neuchâtel et patron de l'entreprise Le Jardin des Senteurs. Bonjour Philippe.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
Nous sommes le 23 février, samedi évidemment, jour idéal et ensoleillé pour faire le plein de vitamine D et de bons conseils, en espérant que le soleil de ces derniers jours aura fait germer plein de questions dans vos esprits.
Des questions que vous pouvez poser directement aux jardiniers, ce jusqu'à 8h en composant le 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Ou alors, si votre voix n'est pas encore chaude, vous pouvez opter pour l'option du SMS en envoyant jardin suivi d'un espace et de votre question. Vous envoyez le tout au 939 ou encore, vous pouvez trouver notre formulaire sur nos sites RFJ, RJB et RTN.ch.
Et bien voilà, les renseignements sont donnés, les jardinières, c'est parti.
Les jardinières, Sophie et Stéphanie.
Philippe, on démarre tout de suite en parlant radis. C'est Dylan qui nous écrit pour savoir les besoins lumineux des radis. Est-ce qu'il faut qu'ils soient au soleil et comment favoriser et prendre soin de cette espèce pour ne pas faire faux?
Donc on parle bien des radis,
les petits radis rouges. Les petites choses qui se mangent en salade. Voilà. Ouais, écoutez, j'imagine.
Ok. Alors, je suis désolé, mais ça résonne vachement dans mon écouteur. Je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose.
Alors, on va essayer de régler ce petit problème. Effectivement, c'est toujours embêtant. Alors, est-ce que vous pouvez quand même, malgré la résonance, donner un petit coup de main à Dylan?
Absolument. Donc, les radis, ben, moi, j'en ai fait assez longtemps. Et on les semait en couche. On les semait en couche à peu près autour du mois de mars. Pas trop tôt, parce que sinon, ils vont s'allonger et puis ils seront embêtés. Hein, parce que ça craint le gel quand même. Et voilà, après l'ensoleillement, ben on les gardait un tout petit peu à l'ombre au départ, mais en général, ils étaient plutôt en pleine lumière.
La suite, c'est une question sur la rose du désert. Stéphanie qui vient de recevoir une rose du désert qui n'a pas de fleurs, et elle se demande du coup ce qu'elle doit faire avec. Est-ce qu'elle doit la rempoter? Est-ce qu'elle doit attendre que des fleurs viennent? Enfin, elle ne sait pas.
Alors, la rose du désert, moi j'aime pas tellement ces noms français qui veulent... Enfin voilà, c'est toujours un petit peu difficile de savoir de quelle plante on parle. En fait, c'est un adenium, une plante grasse, adenium obesum. Donc elle a une tige qui est un peu obèse, donc c'est une plante grasse qui est succulente, pas parce qu'elle est bonne, au contraire. Elle est succulente, elle est grasse, donc elle est gorgée d'eau comme les cactus. Et surtout pas la manger d'ailleurs, parce qu'elle fait partie de la famille des apocynacées, comme le laurier rose, qui est extrêmement toxique. Et puis les pervenches aussi.
Et c'est bien de le dire, parce que quand vous dites succulente, là on s'est déjà imaginé croquer dedans.
Ouais, donc, c'est des termes horticoles. Voilà, donc succulente veut dire, en termes horticoles, que c'est une plante qui est gorgée d'eau. Et puis, c'est une plante grasse, comme je viens de le dire, et qui a besoin de très peu d'arrosage pendant l'hiver. Et elle fleurit en principe de mai à octobre. Donc un petit peu de patience, et puis la tenir plutôt sur le sec à partir de... Enfin, maintenant, quoi. Mmh. Elle fleurira plus tard.
Donc, faut pas perdre espoir. Donc, elle va fleurir hein, pour Fanny. Parce que c'est vrai que sans fleurs, finalement, cette plante, elle ressemble pas à grand chose. Hein,
ouais, c'est pas. Ouais. Par contre, en fleurs, c'est vrai, c'est assez joli. Hein.
Bon, bah alors patience, Fanny. Hein, vous allez avoir des fleurs sur terre. Rose du désert. Alors pourquoi? C'est vrai que ça n'a un peu rien à voir avec le nom latin. Quoi. Mais bon. Allez, Elvira de Bienne, c'est la prochaine question, qui nous écrit parce qu'elle est triste, car son citronnier et son oranger ont toutes les feuilles froissées qui sont sur le point de tomber. Bon, certainement dû à la chaleur, peut-être, une chaleur de l'intérieur, elle les a rentrés pour l'hiver. Par contre, en grattant une branche, elle a vu qu'ils n'étaient pas morts. Alors, est-ce que vous pensez, Philippe, qu'ils vont refleurir ce printemps? Est-ce que vous avez peut-être un conseil pour aider Elvira de Bienne avec son oranger et son citronnier?
Donc, elle l'a sûrement rentré à l'intérieur de l'appartement.
Voilà, certainement. D'après ce que je comprends,
c'est
qu'elle...
Okay. Alors, c'est déjà pas une très bonne idée. Parce que je vais me pencher d'abord là-dessus. La chaleur, c'est bon, ok? Mais la plante va se dire, tiens, avec la chaleur qu'il fait, où est la lumière qui va avec? Et elle va pousser contre les fenêtres, elle va s'étioler, elle va allonger ses tiges pour aller chercher la lumière. Et puis ça nous donne quelque chose qui n'est pas très jojo, quoi. Voilà. Ensuite, les feuilles froissées, je soupçonne plutôt des pucerons ou des cochenilles. C'est des petites... Les cochenilles, c'est comme des pucerons, mais avec une carapace, voilà, une petite carapace de tortue. C'est pas beaucoup plus gros qu'un puceron. Voilà, et puis c'est des saletés de bestioles qui piquent les cellules des feuilles et qui les empêchent, les cellules, de se développer. Donc, ça peut éventuellement provenir de là. Et ça va froisser la feuille.
Est-ce que c'est vraiment dangereux pour la plante? Là, il faut absolument faire quelque chose.
Bon, s'il y en a beaucoup, ouais, ça va l'épuiser. Puis en plus, c'est pas joli. Après, probablement qu'il va fleurir quand même. Mais voilà, donc il est en intérieur, c'est pas terrible. Il faudra le sortir, mais pas trop tôt, parce qu'il y a des risques de gel. Donc ça risque. S'il y a des petits risques de gel, bon, c'est un peu difficile de parler de gel en ce moment, alors qu'il devrait faire froid. Mais non, normalement, ça fleurit autour de mai-juin. Donc. Après, il faut bien lui donner un engrais pour agrumes, parce que les engrais, les citrus, enfin tout ce qui est citronnier, oranger et compagnie, demande un engrais particulier contenant du magnésium.
Ah ouais, donc parce que si on met pas cet engrais, finalement, il y a de grandes chances que la plante ne passe pas l'hiver, hein, ça c'est sûr.
Ouais.
Et est-ce que si on a une serre, on peut mettre dans une serre où ça fera exactement le même problème qu'en appartement?
Alors ça dépend ce que vous entendez par serre. Une serre horticole, elle est chauffée. Donc ça nous permet... Il n'y a pas besoin de grande chaleur, hein, pour le citronnier, il faut juste qu'il ne gèle pas, quoi. Donc moi je les tiens à 5-6 degrés, ça suffit largement. Une serre non chauffée, moi je vous défie d'aller dormir une nuit dedans, une nuit bien froide. Si elle n'est pas chauffée, vous allez avoir froid.
Et puis justement, ces citronniers et puis ces orangers, alors c'est vrai qu'on en voit très souvent finalement dans les magasins, c'est pas possible de les planter en terre, parce qu'on revient justement à ce problème de gel et puis ça va de toute façon pas passer
l'hiver. Non. Ouais. Sous notre climat, enfin actuellement en tout cas, sous notre climat, c'est exclu de laisser un citrus à l'extérieur pendant l'hiver.
Est-ce qu'on pourrait pour l'hiver le mettre dans un garage où là ça va complètement manquer de lumière?
Ça va manquer de lumière, ouais, parce que cette plante garde ses feuilles. Un figuier, par exemple, que vous avez en pot, vous pouvez parfaitement le garder dans un garage. Il perd ses feuilles, donc il n'y voit rien du tout. Qu'il y ait des feuilles ou pas de feuilles, il s'en fiche. Le citronnier, lui, va avoir un problème parce qu'il a des feuilles, donc il doit pouvoir faire au moins de la photosynthèse. Il lui faut de la lumière, donc il lui faut vraiment un endroit très, très lumineux.
7h, 8h, les jardinières.
Et on a Jacques qui nous a écrit pour nous dire qu'il a un vieux ficus, mais que depuis quelque temps, il dépérit. Donc, il l'a rempoté, il semble se rétablir doucement, mais en coupant des branches mortes, il s'est aperçu que certaines parties étaient devenues spongieuses. Et à certains endroits, il décrirait ça comme étant de la moisissure blanche qui s'est développée. Est-ce que vous connaissez ce problème, Philippe ?
Alors, la moisissure, je doute un petit peu que ce soit de la moisissure, parce que j'en ai jamais vu sur des ficus. Par contre, ce qu'il prend peut-être pour de la moisissure, c'est peut-être des cochenilles farineuses. C'est donc, voilà, on a parlé de cochenilles tout à l'heure. Eh bien, c'est la même chose. C'est comme si, en fait, elles étaient enveloppées de petits filaments, un peu comme un bout de Q-tips. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une grosse saleté. J'en ai eu dernièrement sur un beau carnet chez moi. J'ai carrément raboté intégralement la plante. Maintenant, elle refait des nouvelles pousses, mais les cochenilles sont, il y a les œufs de cochenilles qui sont là. Donc, c'est vraiment une saleté pour s'en débarrasser. Et on en trouve de plus en plus parce que les entreprises qui nous vendent des plantes neuves, même nous, si on achète des plantes neuves, on n'est jamais à l'abri d'en trouver de ces cochenilles. Les produits utilisés pour lutter contre sont toujours plus doux. Donc ça, c'est bien pour notre planète. Par contre, pour les plantes, c'est un petit peu difficile parce que, ben voilà, on n'arrive pas à être sûr d'avoir des plantes parfaitement saines. Ce qu'ils pourraient faire, raccourcir la plante, bien la tailler, et puis s'il en voit encore, les enlever avec un Q-tips. Et puis,
tout simplement. Et puis
l'alcool à brûler. Ouais.
Alcool à brûler, ça ne va pas faire du mal à la plante?
Non.
Non? Ok, voilà, donc on va essayer. Hein, Jacques, réécrivez-nous si vous faites vos petits soins à ce pauvre vieux ficus. Et puis si ça marche, tenez-nous informés tout simplement. Et on vient de recevoir un SMS de la part de Magali qui nous dit qu'elle aimerait savoir quand tailler les rosiers.
À partir de mi-mars, ça me paraît le moment assez favorable, avant qu'il commence de se réveiller, et puis pas trop tôt. Donc il y en a qui taillent les rosiers en même temps que les arbustes fruitiers pendant tout l'hiver, c'est un peu une bêtise, parce que si on a une période de chaud en janvier, février, ben voilà, c'est ce qu'on a eu, et les plantes risquent de démarrer, bourgeonner trop tôt, et on a toujours des risques de gel qui pourraient endommager ces petits bourgeons qui ont démarré trop tôt. Donc mi-mars, c'est bien.
Ouais, parce que finalement les arbres fruitiers, c'est maintenant, on est en plein dedans.
Ouais, on est en plein dedans et puis c'est en train de se terminer, quoi.
Voilà, donc mi-mars pour Magali.
On a reçu un autre SMS dans la même minute, anonyme, qui demande comment peut-on utiliser la cendre de bois comme engrais.
On avait déjà eu cette question à l'époque.
Ouais, on a déjà eu ça. Donc la cendre de bois comme engrais. Bon, il faudrait pas en mettre trop déjà parce que ça va. C'est un petit peu comme le compost. Si on en met trop, ça compacte le sol. Ça va amener, sauf erreur, du potassium et puis du carbone. Faut pas trop en mettre, faut être raisonnable. Peut-être qu'il a un poêle, puis qu'il aimerait utiliser ses cendres, c'est ça?
Alors j'imagine que c'est ça. Hein. C'est vrai que la question demande simplement comment il peut utiliser la cendre de bois. Donc voilà, je pense que ça vient d'un poêle ou d'une cheminée personnelle.
Ouais, en tout cas, il ne faut jamais trop en mettre. Même sur le compost, on peut le mettre en principe. Ça ne se fait pas, mais on peut en mettre un petit peu. Moi, je le fais aussi. Tous mes chauffages qui fonctionnent au pellet, donc j'ai des cendres, mais je les répartis un petit peu partout.
Et puis justement, à part les cendres, qu'est-ce qui peut être utilisé comme engrais ? Comme ça, là, pour ceux qui aimeraient faire un peu de l'engrais naturel, et puis peut-être s'y prendre déjà maintenant.
Ouh, alors là, c'est...
C'est large.
Vous avez du temps.
On a une minute exactement avant la pause.
Bon, alors, on peut utiliser du compost. On va utiliser du compost. On peut faire des composts de feuilles, des composts avec les mauvaises herbes du jardin. Du fumier, pourquoi pas?
Ah oui.
On peut même acheter du fumier qui est sous forme de pellet, de façon à ce que ce soit facile à travailler. Il y a pas mal d'engrais naturels qui fait tout. Donc, idéalement, on peut utiliser plein de choses. Alors, on n'a pas le droit de dire que c'est des engrais, mais par exemple, les purins d'ortie et plein d'autres purins sont considérés, selon la loi, comme des stimulants. Voilà, on peut pas dire que c'est des engrais, on n'a pas le droit. Donc on utilise un autre terme, c'est des stimulants.
C'est un peu pareil finalement, ça veut dire la même chose.
Voilà.
les jardinières.
Et on est de retour pour la deuxième partie des jardinières. Nous sommes toujours présentes avec Sophie et ce matin, c'est avec Philippe Détrat que nous sommes patron du Jardin des Senteurs à Neuchâtel. Et puis bien sûr, il se fait un plaisir de répondre à vos questions.
Et ces questions, je vous le rappelle à nouveau, vous pouvez les poser jusqu'à 8 heures par différents moyens, soit par écrit, par SMS au 939 en écrivant le mot « jardin » suivi de votre question ou par le formulaire que vous trouvez sur nos sites internet sous l'onglet « Émissions questions jardinières ». Et sinon, vous pouvez prendre votre téléphone et parler directement avec Philippe en nous appelant au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute.
Et puis tout à l'heure, nous avions reçu un SMS justement qui nous parlait de cendres. Comment utiliser les cendres en tant qu'engrais au jardin? Et puis Philippe Détrat, vous avez fait quelques petites recherches pendant la pause et puis vous avez un petit complément d'information à nous donner.
Oui, alors effectivement, il y a dans la cendre, il y a du calcium, du potassium, j'avais pas dit de bêtises, et on peut trouver aussi du magnésium et du phosphore. Par contre, il ne faudrait pas dépasser 70 grammes de cendres par année. Sur une surface. 70 grammes, ça correspond grosso modo à deux poignées. Donc il ne faudrait pas dépasser cette dose-là, parce que, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, ça risque d'être mauvais pour le sol. Ça va compacter le sol, ça va un petit peu l'étouffer. Il faudrait l'incorporer au sol. Voilà. Et puis sinon, y a toujours une utilisation contre les limaces. Hein, vous faites une petite barrière de cendre autour de vos salades. Les limaces ne pourront pas aller aux salades. Elles vont un petit peu patauger dans le yogourt.
Ah oui, bon truc.
On a reçu un SMS aussi pendant la pause qui dit « J'ai un citronnier qui, par deux fois, a eu des bestioles brunes et plates sur les feuilles et les tiges. J'ai traité une fois déjà en 2018, mais c'est revenu. Comment puis-je m'en débarrasser ?»
Oui, alors c'est la journée cochenille. Hein. On a parlé des cochenilles tout à l'heure, avec des cochenilles farineuses qui ont des petits filaments blancs. Et là, c'est de la cochenille à bouclier, qu'on trouve aussi sur les arbres fruitiers. Toujours une saleté à s'en débarrasser. Moi-même, j'en ai eu passablement sur mes citrus. Donc d'abord, j'ai commencé par faire une taille sévère pour enlever les branches qui étaient très atteintes. Et puis ensuite, on nettoie soigneusement les feuilles avec juste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un Q-tips trempé dans de l'alcool à brûler. Ça permet de les enlever.
Donc voilà, petit truc aussi assez facile, voilà. Toujours le Q-tips. Le Q-tips.
Après, il y a quelques temps, il existait des produits qui s'appellent Actara, par exemple, qui sont plus autorisés à être utilisés par les privés, seulement par les horticulteurs professionnels. Et puis, ça, c'est un produit qu'il ne faut absolument pas mettre sur un citrus, parce que si vous voulez une fois manger vos citrons ou vos oranges, voilà, eh bien, il faudra imaginer qu'il y aura du produit à l'intérieur.
Ah ouais, ça, c'est vrai que c'est bien d'y penser, hein.
Voilà.
Effectivement.
Merci. Il y a encore un petit truc peut-être.
Ah, allez-y, on vous écoute.
Je continue. Il y a des huiles végétales qui sont utilisées en traitement doux, qui sont utilisées pour traiter ce genre de plantes. Et ça permet ces huiles, souvent à base d'huile de colza, mais ce n'est pas de l'huile de colza de consommation, hein, vous trouvez dans des jardineries. Eh bien, cette huile de colza va étouffer ces bestioles. Elle ne va pas les faire disparaître, mais elle va les étouffer. Donc, les bestioles vont mourir.
Voilà.
Voilà, pour ça, il faut vraiment que la plante soit mouillée de toutes parts.
Huile de colza. Et là, c'est vrai que c'est aussi dans les jardineries.
Oui, on trouve.
Spécifique.
Je
ne
vais pas citer de noms commerciaux, mais on trouve facilement.
Bien, merci Philippe. On vient de recevoir un formulaire via notre site internet. C'est de la part de Sarah de Bienne qui nous pose la question suivante. Dans une salle de bain sans fenêtre et donc sans lumière naturelle, que recommandez-vous comme plante ? Et bonne question, hein. C'est vrai que souvent, on aimerait bien mettre une petite plante dans la salle de bain, puis on ne sait pas, par rapport à la lumière, comment ça va tenir. Et
en
l'humidité, hein, surtout.
En plastique ?
Ah, en plastique, carrément. C'est vrai que là, il n'y a pas de risque.
Honnêtement, n'importe quelle plante, que ce soit même une plante qui aime l'ombre, a besoin de lumière. Donc, il n'y a aucune plante qui va aller dans un endroit sans lumière.
Ah ouais, donc même s'il y a de l'humidité et c'est tout, puis la lumière finalement artificielle, pas moyen de mettre...
Parce que même les lumières artificielles ne sont pas des lumières qui sont parfaitement semblables au spectre lumineux du soleil.
Ah ouais.
Donc voilà. Après, qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Je redirai après.
Bah, tout d'un coup, si ça vous revient, évidemment. Vous n'hésitez pas à donner un petit complément hein, à cette personne qui nous a écrit.
Ah oui.
Allez-y. C'est bon, c'est revenu déjà. C'était rapide.
Disons, même dans une pièce bien éclairée, une plante en hiver, à partir de 3 mètres d'une fenêtre, donc si elle est plus éloignée de 3 mètres, elle est en manque de lumière, vous imaginez ?
Ah oui, d'accord. Donc là, pour la salle de bain sans fenêtre,
voilà.
Plante en plastique, ma foi. On vient de recevoir une question de Laura, question typiquement jurassienne. Hein, à quelle période planter des arbres fruitiers type damascine ? Alors vous, Neuchâtelot, est-ce que vous avez cette info pour Laura ?
Bon, disons, la damascine, c'est une...
Une prune.
C'est un prunus. Mm. Voilà, donc, c'est particulier au Jura. Moi-même, j'en ai jamais planté. Alors, vous pouvez trouver, pendant la période où il n'y a pas de végétation, probablement des plantes qui sont peut-être à racines nues. Mm-hmm. Mais alors là, moi, je vous conseille de vous approcher d'horticulteurs jurassiens. Mais par exemple, Olivier Ribaud, qui était à ma place la semaine passée, lui pourra parfaitement bien vous renseigner.
Voilà, donc Olivier Ribaud, qui, on le rappelle, est pépiniériste à Queuve.
Exact.
Extra, merci beaucoup Philippe. Ça enchaîne les questions ce matin.
Allez-y.
Sophie, vous avez quelqu'un en ligne qui voudrait poser sa question à Philippe Détra.
Oui, on a Denis de Courtemèche qui souhaiterait rempoter un olivier. Bonjour Denis.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Bien le bonjour.
Alors,
voilà, c'est ma question. Donc, j'ai un olivier et j'aimerais mettre un pot plus grand. Alors, j'aimerais savoir déjà la grandeur du pot, combien je dois prendre plus grand et qu'est-ce que je dois mettre comme terre.
Ok, alors vous allez... quand on achète des oliviers, en général, ils viennent du sud, de Sicile, d'Italie, ou je ne sais pas d'où. Et puis, ils ont vraiment une terre relativement spéciale qu'on peut difficilement faire... on a de la peine à faire la même chose. Donc moi, je vous conseille de prendre une terre que vous allez trouver aussi en jardinerie, qui s'appelle pour bac et terrasse. Donc c'est une terre... qui est assez consistante, voilà, avec relativement peu de compost ou de tourbe.
Ce que je trouve chez mon jardinier.
Exactement, ouais. Et puis, voilà, ouais. Au niveau de la taille du pot, eh bien, voilà. C'est une histoire de esthétique aussi. Vous n'allez pas partir dans un pot beaucoup trop grand.
Et puis, non, justement, je vais pas.
Il a quelle taille maintenant le pot actuel?
Alors, il fait 22, environ 22 centimètres.
Ouais, ok, ben vous allez prendre un pot de 30 centimètres, grosso modo.
Ah, quand même, ah, ouais. Ouais, c'est ça, je ne savais pas. Alors, je pensais qu'il fallait rajouter 2 centimètres au rayon, c'est pour ça.
Non, vous pouvez mettre deux doigts de chaque côté de la motte. Voilà,
d'accord, extra, ouais. Alors, merci beaucoup.
Merci de nous avoir appelés, en tout cas. Belle journée.
Merci à vous, bonne journée, Denis.
Au revoir, merci.
7h, 8h, les jardinières.
Et vous avez encore quelques minutes pour poser vos questions. Comme l'a fait cet auditeur par SMS qui nous a posé la question suivante. J'ai des bacs devant la façade de mon immeuble. Dans un d'eux, je mets des tomates et des salades. Et dans l'autre, des vivaces. Il aimerait savoir comment diminuer les arrosages parce qu'ils sont en plein soleil. Et puis, quelles vivaces garder parce que finalement, en plus de la pluie, eh bien, il n'arrive pas toujours à garder les bons arrosages. Alors, Philippe, est-ce que vous pouvez venir en aide à cet auditeur?
Ouais, alors, on a deux cas bien différents. Donc, les tomates ont des relativement grands besoins de nourriture et d'eau. Donc là, c'est évident, on ne peut pas réduire l'arrosage. Donc, il faut arroser lorsque la plante a soif. Et puis ça, c'est presque un travail quotidien pendant l'été, lorsqu'il fait beau. Ensuite, évidemment, les tomates, elles seront toujours mieux au soleil qu'à l'ombre. Donc là, il n'y a pas de miracle, c'est arrosé. Ensuite, pour les bacs de plantes vivaces, alors il y a une quantité incroyable de plantes qu'on appelle de rocailles qui peuvent être mises dans ces bacs. Mais par contre, de temps en temps, il faudra quand même leur donner un petit peu. Hein, parce que, on trouve des sédums, on trouve des... Maintenant, je ne sais pas où habite ce monsieur.
Alors, ce n'est pas précisé.
Ah, ouais. Ok. Donc, ça dépend aussi de l'altitude à laquelle il se trouve. Donc là, je lui conseille d'aller voir un jardinier.
Voilà, pour avoir des conseils tout simplement par rapport à l'altitude, par rapport à l'endroit, à l'ensoleillement, évidemment, hein, ça change.
Ouais.
Et puis voilà, le temps qu'il a consacré à ces vivaces. Et puis
Un jardinier, si possible, spécialisé dans les vivaces, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, par exemple, le jardin botanique de Neuchâtel. Ils ont une jolie collection de plantes vivaces.
Ouais.
Peut-être à celui de Porrentruy, je ne sais pas.
Oui, parce qu'on ne sait pas non plus d'où vient la personne. Donc c'est vrai que si vous avez, vous qui nous écoutez, peut-être quelques précisions quant à l'endroit, eh bien n'hésitez pas à nous remettre un petit SMS.
On poursuit avec des avocatiers qui sont malades. C'est Laure qui a un avocatier qui a les feuilles brunissantes, sèches et qui s'enroulent même les jeunes pousses. Il est planté dans un pot depuis toujours derrière une baie vitrée. Elle a mis ombre et elle soupçonne qu'il manque de place avant de le rempoter. Elle voulait savoir votre avis. À noter qu'elle l'arrose une fois par semaine et qu'elle n'a pas vu de vilaines bêtes.
Alors, cette fois, c'est peut-être pas des bêtes, effectivement. Alors, il peut y avoir deux raisons. S'il est directement derrière une baie vitrée, il peut éventuellement avoir les feuilles qui brûlent sous l'effet d'une lumière trop intense. Ça, je ne peux pas dire. S'il a toujours été derrière cette baie vitrée et que ça se passait bien alors, il n'y a aucune raison que ça se passe mal maintenant. Ensuite, il y a peut-être un problème d'arrosage. Éventuellement trop d'eau, je ne sais pas s'il est dans un cache-pot. Les cache-pots, c'est un petit peu dangereux, c'est joli, mais c'est dangereux pour les plantes parce qu'on ne maîtrise pas très bien la quantité d'eau qui stagne peut-être au fond des cache-pots. Et si l'eau stagne, les racines en souffrent, et puis si les racines en souffrent, c'est les feuilles qui vont montrer des symptômes.
Ah ouais, donc du coup, ça pourrait être ça.
Ça pourrait.
Et ça pourrait être le manque de place, selon vous, ou pas forcément?
Je ne sais pas. S'il est derrière une fenêtre, ça m'étonnerait que ce soit un problème de place.
Alors, voilà, il faut faire des teasers.
Voilà, je ne sais pas. On n'a pas vu l'endroit.
Ouais, ouais. Non, c'est sûr que c'est toujours assez délicat. Les avocats, c'est quand même. Ce n'est pas une plante très évidente à faire pousser. Hein. En tout cas, pas les fruits.
Non, c'est vrai. C'est sympa, ça pousse bien. Mais voilà, après, ça s'allonge. Il ne faudrait pas hésiter à les couper pour les obliger à se ramifier. Et puis souvent, ça fait un petit peu mal au cœur de le faire.
Eh ouais, ça c'est sûr. Enfin, c'est un peu le problème du jardin. Des fois, on a un peu de la peine à se séparer de certaines plantes. On a une autre question, une qui vient d'Anne-Marie. Au retour des beaux jours, je voudrais planter des oignons et de l'ail dans mes lignes de tomates pour les protéger des limaces. Elle voudrait savoir également mettre des salades dans ses lignes de tomates. Alors, est-ce que vous pensez que les limaces ne viendront pas avec l'ail et les oignons? Et bonne question, d'Anne-Marie. Hein, l'ail et les oignons, ça empêche les limaces de venir, Philippe?
Peut-être. Non, pas forcément, je crois pas. J'ai déjà vu des trous sur des poireaux et sur des ciboules qui sont à peu près la même... Enfin, c'est la même famille. Mm-hmm. C'est des alliums aussi. J'ai déjà vu des trous, donc les limaces, elles y vont. J'ai pas connaissance vraiment de ces plantes qui sont utilisées pour protéger d'autres plantes. Mais là aussi, une petite recherche sur Internet vous donnera assez rapidement des réponses. Maintenant, mettre des salades au milieu des tomates, pourquoi pas? Lorsque les tomates sont jeunes, les salades vont avoir suffisamment de lumière et on va les couper, on va les manger en même temps que les tomates vont grandir. Donc, mais après, il ne faut pas remettre des salades là au milieu parce qu'il n'y aura pas assez de lumière pour les salades.
On a Jenny du Locle qui, elle, a un cactus. Elle nous dit qu'elle n'a pas la main verte pour un sou, mais qu'elle a décidé de s'acheter un cactus pour ses vertus dépolluantes. Seulement, voilà, dès le lendemain, des taches sont apparues dessus. Qu'est-ce qu'elle doit faire?
Alors, ça dépend des taches. Ça dépend des taches, de quelle nature elles sont. Je peux pas répondre. Si, dès le lendemain, c'est quand même bizarre. Dès le lendemain, c'est quand même bizarre. Moi, je retournerai à l'endroit où elle l'a acheté pour demander l'échange. Si c'est dès le lendemain, à moins qu'elle l'ait transporté par une journée ou particulièrement froide, sans protection, et là, éventuellement, la plante peut avoir souffert du transport.
C'est possible que donc elle l'ait acheté, puis finalement, le cactus avait une maladie, tout simplement, et puis. Comme vous dites, hein, le mieux, c'est d'aller directement dans le magasin et puis demander un échange.
Ouais, si c'est dès le lendemain, franchement, ça vaut la peine.
Vertu dépolluante, alors le cactus, si on le met comme ça dans une pièce, ça peut un peu purifier la pièce?
Ouais, il paraît, ça se dit aussi pour beaucoup d'autres plantes vertes. La NASA a fait des recherches il y a, je pense, une trentaine d'années sur les vertus dépolluantes des plantes. Ils pensaient en mettre dans les fusées. Et puis, il y a plein de théories qui disent que c'est dépolluant, et puis il y a les théories contraires aussi. Alors, je pense que de toute façon, avoir une plante dans un appartement, à peu près de n'importe quelle plante, va probablement dépolluer une partie de l'atmosphère.
Et puis après, peut-être certaines plus que d'autres, mais en tout cas, voilà. C'est toujours conseillé d'avoir des petites plantes vertes, effectivement. Philippe Detra, on arrive bientôt en fin d'émission. Merci d'avoir été avec nous, mais avant, on a notre petite question habituelle. Hein. Nous sommes le 23 février, qu'est-ce que vous conseillez à tous ceux qui nous écoutent et qui auraient peut-être envie de sortir un petit peu sous ce soleil cet après-midi? Que faire au jardin pour prendre déjà peut-être un peu d'avance et puis voilà, se préparer aux journées plus chaudes?
Alors nous, on est en train de faire de la taille. C'est agréable comme temps. Alors, pas tout de suite à torse nu, hein, parce que le coup de soleil, ça risque d'arriver.
Oui, c'est vrai qu'on s'en doute pas, mais ça peut.
La taille, nettoyer, ramasser les feuilles mortes, enlever les grosses mauvaises herbes, et puis un petit rappel pour. Enfin, j'aime bien donner ce petit rappel aux Neuchâtelois qui nous écoutent. Le 1er mars, c'est férié chez nous, et c'est un bon moment pour tailler vos géraniums, mais sans forcément les mettre dehors tout de suite. Après, ils auront le temps de se ramifier pour bien fleurir au mois de mai.
Et ouais, puis en plus, je crois qu'ils annoncent déjà du beau hein, pour fin de la semaine. Donc, n'hésitez pas à sortir mais pour la taille.
Les Jurassiens peuvent les tailler aussi.
Hein. Mais bien sûr. Ouais. Ouais, ouais. Et puis, les gens du Jura bernois également qui nous écoutent.
Donc, voilà. Exclusif. Voilà.
Les jardinières touchent à leur fin pour aujourd'hui. Il est bientôt 8h, et oui, ça file. Vous pouvez rejoindre vos plantes pour appliquer tous les conseils reçus aujourd'hui. Merci à vous, Philippe Détra, d'avoir pris le temps de répondre aux questions des auditeurs. On vous souhaite une excellente journée.
À vous aussi, merci beaucoup.
Les jardinières reviennent samedi prochain à la même heure et sur la même fréquence. Hein. Si des questions surgissent dans vos esprits jusque-là, vous pouvez tout simplement nous les écrire par SMS, toujours en indiquant le mot « jardin » avant votre question que vous envoyez au 939 ou encore par le formulaire que vous trouvez sur nos sites. N'essayez en tout cas pas de nous appeler parce qu'on ne répondra pas avant samedi prochain. Vos questions seront traitées bien sûr en priorité samedi prochain dès 7h. Bon week-end et à la semaine prochaine.
Bon week-end.
7h. 8h. Les jardinières.